Bonsoir, comment allez-vous ? Sophie Janin, qui dirige la maîtrise de Radio France, était l'invitée de France Musique cette semaine et elle évoquait un mot qui n'existe qu'en suédois, lagom, et qui signifie la juste dose. Je me suis dit que l'aiguille indiquant le juste milieu ne pouvait pas être fixe, puisque tout bouge dans la vie. Seule l'impermanence est permanente, disent les bouddhistes. Peut-on imposer donc une juste dose ? C'est ce qu'on essaye de faire dans la vie matérielle, et souvent c'est aberrant. Pour la lessive par exemple, nous devons laver un t-shirt ou une grande housse de couette avec la même dose. Au lavabo de la radio, la même quantité d'eau coule que nous nous lavions bien les mains ou que nous remplissions une tasse de dinette. Comme nous sommes assez peu nombreux à jouer à la dinette, je me demande pourquoi c'est la dose tasse de dinette qui a été choisie. Il n'y a pas que la lessive et l'eau qui soient prédosées, il y a la lumière aussi. Qui ne s'est jamais retrouvé tout d'un coup dans le noir complet dans une position acrobatique au milieu de toilettes douteuses, ou dans le noir complet dans un escalier bien raide en déménageant le piano ? Mais pourquoi devrait-on décider pour moi de mes besoins en lumière, eau, lessive, café, tout ça ? Pour me faire dépenser plus de café, de lessive, ou moins d'eau, d'électricité. Ça devient tellement compliqué de se laver les mains avec l'eau qui s'arrête tout le temps et rechigne à repartir, qu'on finit par ne plus se les laver du tout. Et je ne suis pas sûre qu'une épidémie de gastro entraîne une réelle économie d'eau.
Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 9 ans. J'aimerais bien savoir depuis quand les gens partent en croisière en paquebot, c'est-à-dire qu'ils reviennent à leur point de départ. Merci! Au revoir.
Bonsoir Chloé. Nous aimons beaucoup, Chloé, au petit bateau, cette idée que tu as eue de partir pour revenir à son point de départ. Cyril Coutancet, vous avez écrit « Les hommes et la mer » chez CNRS Éditions et vous êtes le directeur de recherche du Centre d'études stratégiques de la Marine. C'est étonnant cette idée. Elle a raison de partir pour revenir à son point de départ.
Et alors Chloé, en fait ce qui est curieux, c'est que les bateaux de croisière, eh bien... souvent, tu ne reviens pas à ton point de départ. Alors, d'abord, il faut savoir que les gens partent en croisière depuis très très longtemps. Ça a été inventé, en tout cas les premières traces qu'on a, c'est à l'époque des croisades, où les Vénitiens, qui transportaient les pèlerins en Terre Sainte à l'époque, avaient inventé, pour rentabiliser le transport, des cabines de prestige, de luxe justement, et proposaient ce qui était la préhistoire de la croisière en fait, donc des voyages luxueux pour aller en Terre Sainte. Donc ça remonte à peu près à cette époque-là. Et puis ensuite, on a eu, au 19e siècle notamment, puis début 20e, les aristocrates européens qui faisaient le grand tour et donc qui, avant de rentrer véritablement à l'âge adulte, allaient découvrir les îles en Méditerranée sur des bateaux, sur des croisières, etc. Tu as peut-être vu ça déjà, l'impératrice Sissi, qui, à la fin de sa vie, justement, et pendant des années, une dizaine d'années, n'a cessé de partir en bateau sur un yacht, justement, en Méditerranée. Elle voulait quitter la cour de Vienne, justement, et changer les idées. Et puis aujourd'hui, effectivement, on a énormément de bateaux de croisière. On en a de plus en plus. Mais alors, ils ne vont pas forcément revenir à leur point de départ, puisque si tu veux partir en croisière, tu vas, mettons, partir de Marseille pour aller visiter les îles grecques en Méditerranée. Et donc, tu partiras de Marseille, tu iras visiter les îles grecques, et puis ensuite, tu prendras un avion pour revenir en France. Parce que sinon, ça te prendrait trop de temps et ton séjour de croisière ne serait pas forcément agréable. Mais ce qui est assez étonnant, en tout cas, aujourd'hui, c'est que les navires de croisière ont remplacé finalement un petit peu les clubs méditerranéens qu'on connaissait dans les années 70-80. C'est un peu le même concept, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'activités à bord, puisque les navires de croisière maintenant proposent des jeux pour les enfants, des toboggans géants, des tas de choses comme ça, des tas d'activités.
Il y a plusieurs piscines,
il y a même des pistes de ski pour certains. Donc toute une série d'activités, mais sur l'eau. Et c'est un marché qui est en plein essor. Alors d'un point de vue économique, qui est assez curieux, puisqu'en fait, l'offre crée la demande. C'est-à-dire que plus on met de bateaux de croisière sur le marché, et plus il y a de clients. Et c'est un marché, donc pour l'instant, où on ne voit pas la fin. Et alors qui fait travailler beaucoup de gens en France, puisqu'on a les chantiers de l'Atlantique, donc qui sont à Saint-Nazaire. Et leur spécialité, c'est de fabriquer, de construire des paquebots de croisière. Et donc, si tu as l'occasion, justement, d'aller un petit peu dans l'Ouest et d'aller faire un tour à Saint-Nazaire, tu verras ces gigantesques navires qui sont construits. Ça donne le vertige, parce que c'est vraiment des villes flottantes. C'est très haut, c'est énorme, c'est gigantesque. Et ça a un beau succès aujourd'hui.
Parce que dans notre imaginaire, Cyril Coutancet, le bateau de croisière, à cause de son histoire, probablement, c'est un peu le Titanic. On on voit ces gens très bien habillés sur le pont et qui voient l'eau et on a l'impression que ça fait partie quand même du plaisir de la croisière. Si on est sur un immeuble de plus de 10 étages, elle est loin l'eau.
Alors on la voit effectivement un petit peu, mais finalement je pense que c'est aussi en prise avec notre époque où on a besoin d'activité constante, de changement d'activité constante. Par exemple, il y a une demande maintenant de ceux qui embarquent sur des navires de croisière. Une de leurs premières demandes, c'est de savoir s'ils vont être connectés à Internet, si leurs téléphones portables vont passer, parce qu'ils veulent être en liaison avec la Terre. Alors qu'effectivement, auparavant, le plaisir d'une croisière, c'était d'être coupé des communications, c'était d'avoir l'impression d'être seul au monde.
Changement d'époque, effectivement. À propos d'époque, ce soir, dans Les Petits Bateaux, Carole Fritz nous dira qu'il s'est écoulé autant de temps entre la grotte de Chauvet et la grotte de Lascaux qu'entre la grotte de Lascaux et nous. Jean Prou nous dira comment les petits-enfants peuvent manger des petites huîtres. Et Sébastien Charnoz nous expliquera qu'on peut consulter une carte de l'univers.
Bonjour, je m'appelle Valentin, j'ai 5 ans et demi et je voudrais savoir comment des nouvelles races sont créées. Au revoir.
Bonsoir Valentin, c'est Thierry Laudet qui est professeur, chercheur en biologie et en écologie évolutive dans les universités de Rennes et d'Angers qui va répondre à cette question difficile, non ?
C'est une grave question, c'est en fait le grand mystère de l'évolution. Pourquoi y a-t-il tant d'espèces ? Pourquoi de nouvelles races sont créées ? Alors pour que quelque chose se passe comme ça, il faut d'abord qu'il y ait envie de se spécialiser sur quelque chose. On va avoir d'un côté un insecte qui va manger une feuille, l'autre va plutôt manger la tige ou plutôt la fleur. Au départ, c'est la même espèce. Mais à force de se différencier, à force de ne pas être tout à fait d'accord sur ce qu'on mange ou sur la manière dont on se spécialise, eh bien on va petit à petit diverger. La divergence fondamentale se fera lorsqu'on n'aura plus envie de faire des bébés ensemble, lorsqu'on n'aura plus envie de se reproduire ensemble. Donc il faut deux facteurs. Le premier facteur, on se spécialise sur un aliment, une ressource trophique, on dit nous les biologistes.
Oui,
et deuxième
bien.
Point, on va diverger dans nos activités sexuelles ou dans nos activités reproductrices. Cette divergence-là est fondamentale puisqu'elle va empêcher après que l'espèce se reforme à nouveau. Il y aura bien deux groupes différents qui vont petit à petit continuer à se séparer et parcourir leur grand chemin le long de l'évolution.
Et y a-t-il, Thierry Laudet, des étapes intermédiaires ? Par exemple, on peut faire des enfants ensemble, mais ceux-ci après ne pourront pas se reproduire, genre je pense aux vous imaginez, au cheval et au...
Voilà, oui.
Et
bien sûr, à l'âne. Alors, il peut y avoir des moments d'hybridation au fur et à mesure que l'espèce se fait. En effet, c'est pas un chemin linéaire. Il y a plein de nœuds qui peuvent se refaire et qui peuvent se reconstruire. Donc, en effet, cette possibilité d'abandonner la séduction sexuelle pour finir par se différer les uns des autres se fait lentement. Et donc, on va petit à petit diverger. On sera pas d'accord sur tel et tel élément de séduction. Et moins les individus vont se plaire, moins ils vont se séduire. Plus ils sont contrariés dans leur désir sexuel, et plus ils vont finalement se séparer et devenir deux espèces distinctes.
Voilà les enfants ce que nous écoutions quand nous avions votre âge, les Rolling Stones, Emotional Rescue.
Les petits bateaux sur France Inter.
À propos de génération, les enfants toujours, savez-vous lire une carte? Mais non, puisque vous écoutez votre GPS. Ce n'est pas un reproche, mais pourtant une carte, c'est un véritable bonheur.
Je m'appelle Lucie, j'ai 4 ans, bientôt 4 ans et demi, et je voudrais savoir s'il existe une carte de l'univers que je pourrais regarder.
Quelle bonne idée, Lucie. Sébastien Charnoz, qu'est-ce que vous en pensez ?
Lucie, effectivement, a une très bonne idée. Alors, est-ce qu'il existe une carte de l'univers qu'on pourra regarder ? Eh bien, je dirais qu'il n'y a pas une carte qu'on pourra regarder. Il y a plein de cartes qui vont toutes nous montrer des choses un petit peu différentes. Tout le problème vient du fait que faire une carte unique de l'univers, c'est très compliqué. Alors, l'univers, bien entendu, c'est très grand. Et on a beaucoup de mal à s'y déplacer. Alors aujourd'hui, on se déplace un petit peu dans le système solaire, mais par rapport à la taille de l'univers, c'est presque comme si on ne bougeait pas. Donc le problème, si on veut faire une carte de l'univers, imagine un petit peu, tu es au milieu, par exemple, d'une forêt ou d'un océan, et juste en regardant autour de toi sans bouger, tu dois essayer de faire une carte de ce que tu vois. Donc essayer de repérer les différents objets autour de toi, essayer de dire à quelle distance ils sont de toi. La difficulté quand on regarde l'univers autour de nous, c'est de savoir à quelle distance sont les objets. Donc, quand un objet est proche, on arrive bien à évaluer sa distance. Donc, on peut faire des cartes relativement précises de ce qu'il y a proche de nous. Mais par contre, ça devient très difficile de faire des cartes précises de ce qui se passe à très très grande distance de nous. Mais d'une manière générale, je te dirais que oui, il y a plusieurs cartes possibles que tu peux regarder sur Internet, par exemple sur les sites web de la NASA ou par exemple sur les sites web de l'Agence spatiale européenne ou sur les sites web des grands télescopes. Par exemple, le grand télescope européen au Chili qui s'appelle le VLT, où il y a des grands programmes d'observation qui produisent des sortes de cartes de l'univers. Alors, elles sont de différentes natures. Par exemple, le satellite Gaïa récemment, qui est un satellite européen, a fait une carte très précise de l'environnement proche de la Terre.
Ça, c'est génial déjà.
Alors ça, c'est génial. Et puis, c'est une très belle performance technologique. En utilisant une technique qui s'appelle les parallaxes, qui est une technique très précise pour mesurer les distances des étoiles. Et là, tu peux trouver sur Internet des cartes où tu peux voir en 3D l'environnement du Soleil et toutes les étoiles qu'il y a autour du Soleil. Il y en a des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers, peut-être plus. Donc ça, c'est pour l'environnement proche. Après, si tu veux aller à des tailles plus grandes, ça devient plus compliqué parce que quand un objet est loin, on n'arrive plus à mesurer sa distance. Donc, il y a des techniques plus compliqué, qu'on appelle des chandelles standards, c'est-à-dire on essaie de trouver des étoiles un peu spéciales, qu'on appelle des étoiles variables. On essaie de trouver des événements lumineux très violents, qu'on appelle des supernovas. Quand on les regarde, ces événements, on arrive à savoir à quelle distance ils sont. Et là, on peut comme ça, grâce à ça, quand on en voit dans d'autres galaxies, on peut savoir à quelle distance sont les autres galaxies. Donc il y a des cartes qui te montrent qu'à grande distance, les galaxies se regroupent en amas de galaxies, et les amas de galaxies se regroupent eux-mêmes en super amas. Et à échelle très 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 grande, ces super amas de galaxies, donc je te parle, il y a là de milliards d'années-lumière, se regroupent en grandes structures qu'on appelle les filaments. Les galaxies se retrouvent en grappe dans l'univers le long de filaments. Et enfin, la carte la plus grande de l'univers, où là il n'est pas vraiment possible de donner des distances, je dirais juste que c'est les limites de l'univers observable, mais on ne sait pas très bien à quelle distance c'est la limite de l'univers observable. C'est une carte que tu peux trouver très facilement sur Internet, qui s'appelle la carte du rayonnement de fond cosmologique, en anglais CMB. Et là, tu vas voir les grandes structures de l'univers telles qu'il était à peu près 300 000 ans après la naissance de l'univers. Et tu vois des grands amas d'objets dans l'univers et on pense que ce sont les ancêtres des super amas de galaxies. Mais c'est une carte qui est relativement imprécise, qu'on commence seulement à découvrir. Et un satellite très récemment qui a fait cette carte la plus précise du rayonnement de fond cosmologique s'appelle le satellite Planck. Et tu trouveras ça très facilement sur Internet.
Planck, ça s'écrit
P-L-A-N-C-K.
Si vous n'avez pas tout retenu, c'est pas grave, vous pouvez réécouter cette réponse sur franceinter.fr à la page des petits bateaux. Sébastien Charnoz est professeur d'astrophysique à l'Université Paris Diderot et à l'Institut physique du Globe de Paris.
Bonjour, je m'appelle Éole et j'ai 6 ans, j'aimerais savoir
pourquoi les petits enfants peuvent pas manger des huîtres. Merci. Au revoir.
Bonsoir Réol, que pensez-vous de cette question, Jean Proux, directeur du centre de recherche IFREMER de la Tremblade en Charente-Maritime, les petits-enfants qui consomment ou pas des huîtres?
Et bien sûr Réol, tu peux manger des huîtres, qu'est-ce qui t'en empêche? C'est bien parce que tes parents veulent pas, alors là, faut vite les voir et puis tu leur dis, moi je veux goûter des huîtres. Tu leur demandes de t'acheter des petites huîtres, ils vont les ouvrir, ils font attention de pas mettre de coquilles, de telle manière que tu t'écrases pas les dents sur les coquilles, et puis tu dégustes une huître comme ça, tu verras à quoi ça ressemble, c'est très 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 bon.
Une petite huître, Jean Proux, a un petit numéro ou c'est le contraire, je sais plus?
Une petite huître a un grand numéro.
Ah voilà. Hein?
Alors bon, ça va peut-être pas être facile de trouver ça chez un poissonnier. Mais si tu vas au bord de la mer, tu vas chez un ostréiculteur qui vend des huîtres. Et puis tu vous lui demandes, est-ce que vous pouvez me montrer des huîtres de numéro 5, par exemple, ou du numéro 6?
Elles seront petites.
Si vous en avez, elles seront petites. Et puis tu lui demandes de t'en ouvrir. Il y a même des restaurants maintenant qui font en apéritif des petites huîtres comme des bouchées, quoi. C'est une très très bonne idée. Ça permet à des enfants, justement, comme toi et Ol, de manger des huîtres très jeunes.
Vive les huîtres! C'était Vaudou Game dans les petits bateaux sur France Inter. Vous connaissez le principe des petits bateaux, les enfants, petits et grands, vous nous laissez une question sur le 01 56 40 43 57. Et si le répondeur est en forme, eh bien il est en forme et c'est une bonne nouvelle.
Oui, je m'appelle Antonin, j'ai 10 ans et je voudrais savoir pourquoi dans la grotte de Chauvet il y a des rhinocéros laineux dessinés alors que dans la grotte de Lascaux il n'y en a pas. Au revoir, merci.
Eh ben dis donc, Antonin, je suis bluffée là.
On est chez vous, là, complètement, Carole Fritz, puisque vous êtes archéologue, spécialiste de l'art préhistorique, chercheur au CNRS. Vous avez supervisé ce beau livre, L'art de la préhistoire. A-t-il raison, le petit Antonin, avec les rhinocéros laineux à chauvet, dessinés, alors que pas à Lascaux?
Alors Antonin, ça prouve que tu as une très grande connaissance des grottes ornées, et surtout de ces deux-là. Alors, tu as globalement raison, il y a un rhinocéros à Lascaux. Alors, pourquoi il y en a plus à Chauvet et beaucoup moins à Lascaux?
Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots où est Chauvet et où est
Alors,
Lascaux?
Alors, Chauvet, c'est une grotte qui se trouve en Ardèche, dans la vallée de l'Ardèche, à côté de Vallon-Pont-d'Arc, et il existe actuellement un espace de restitution où on peut aller voir la grotte restituée, et très bien faite. Hein. Donc ça, c'est possible, tu verras justement les rhinocéros, les nœuds. Et Lascaux est en Dordogne, et là aussi, il existe une restitution. Les grottes sont fermées pour des problèmes de conservation, mais les restitutions permettent justement
de comprendre.
Alors, pourquoi il y en a plus à Chauvet? Certainement parce que Chauvet, il y en avait peut-être plus dans l'environnement, ou c'était plus dans la mythologie des histoires que racontent les parois des hommes du Paléolithique supérieur.
Ce qu'on voit sur les parois des grottes, en fait, ce sont des illustrations de mythes, d'histoires, de légendes.
C'est exactement ça. C'est pas la trace de l'environnement extérieur. C'est-à-dire, c'est pas une trace dessinée de ce qu'on voit à l'extérieur.
C'est pas un album de photos de famille.
Voilà, c'est ça. Et les rhinocéros laineux entraient certainement dans ces histoires mythiques, en réalité, des hommes de la préhistoire. Et peut-être que, il faut savoir, Antonin, qu'il y a plus de temps qui sépare Chauvet et Lascaux que Lascaux et nous.
Ah oui, on pense qu'elles sont ensemble.
Voilà, non. Chauvet, c'est moins 36 000 ans. Lascaux, c'était aux alentours de moins 17 000 ans. Ça veut dire que même si au long du Paléolithique supérieur, entre moins 40 000 et moins 10 000, le bestiaire préhistorique est le même, il a des différences, on va dire en pourcentage, des animaux que l'on trouve dans les grottes. Alors, c'est un peu compliqué, je vais y faire simple. À Chauvet, on a plutôt des mammouths, des lions, des rhinocéros laineux, il y a des chevaux, il y a des cervidés, voilà. À Lascaux, on a plutôt des aurochs, des bisons, il y a un peu de lions, il y a un peu de rhinocéros, mais beaucoup moins qu'à Chauvet. Parce que le temps qui sépare ces deux grottes a modifié certainement les mythes, ça ne meurt pas, ça c'est Lévi-Strauss qui le disait, ça se transforme. Et là, on est d'un côté à moins 36 000 ans à l'Aurignacien, de l'autre côté, on est, à moins 17 000 ans, fin du Solutréen, début du Magdalénien, et on a certainement des modifications dans les histoires, et donc des modifications dans les animaux qu'on va trouver dans les grottes. Mais ce sont toujours les mêmes animaux. C'est ça qui est compliqué à comprendre aujourd'hui, parce que nous, on veut que tout change tout le temps. Or, dans ces sociétés-là, il ne fallait pas que tout change tout le temps. Il fallait que ça reste stable. Et les mythes qui régissent la société, qui ordonnent la société, ils vont se transformer un petit peu, mais ils ne changeront pas vraiment. C'est différent dans une continuité. C'est ça qui est difficile à accepter, parce que l'échelle de temps, elle est énorme. On est, nous, sur un temps très long, mais qui est très court dans l'histoire de l'humanité, mais qui est très long, en fait, en termes de société et en termes de génération. Nous, on a du mal à imaginez ce que sont les générations du Paléolithique. Ouais. Entre Chauvet, moins 36 000 ans, Lascaux, moins 17 000 ans, mais le temps
est énorme. Et nous voilà repartis à parler de changement de temps. Carole Fritz dirige l'équipe scientifique de la grotte Chauvet. Et elle nous a vraiment donné envie d'y aller. Nous irons. Eliane Girard, Marjorie de Voucou, Anne-Laure Cochet, Noël Bréham, il n'y a pas de doute, nous sommes majoritaires, les filles. Mais vous retrouverez quand même Jean-Baptiste Audibert avec nous dimanche prochain à partir de 19h30. Pour l'heure, je vous laisse avec Denis Chézout. N'oubliez pas de venir faire un tour sur notre site, de réécouter cette émission et de la podcaster. Je disais que je vous laissais avec Denis Chézout pour la Tulu, mon petit loup.